Europe 1, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, 41e jour de confinement. La libération approche. En attendant, nous continuons notre balade par téléphone chez un comédien comme François Berléand, des humoristes comme Élisée Moon et Pierre Palmade, des écrivains comme Claire Berest, Nathalie Reims, Édouard Louis et Benoît Dutertre. Nous irons chez la chanteuse Misia à Lisbonne ou chez le sociologue Jean Viard qui étudie d'un œil d'aigle les transformations de notre société depuis une quarantaine d'années. Là, il est servi. Et pour nous accompagner, toujours des chansons prémonitoires qui parlaient du confinement sans le savoir et celles qui sortent depuis sur le coronavirus. Allez, c'est parti.
Éloigne-toi de moi, sinon tout loup pas moi.
Plus de sortie à cause du corona, fini les boîtes de nuit à cause du corona. Si tu t'ennuies chez toi, écoute du pot de jabois. La fête n'est pas finie tant qu'il reste l'espoir. Tous confinés, elles bougent leurs fessiers. Faut pas paniquer, mes bélègues ont contaminé. Plus de loyer à payer, c'est trop génial. Tous confinés, mais qui va grave.
Allô, Pierre Palmade ?
Allô, Frédéric ?
Oui, comment allez-vous ?
Je vais bien, Frédéric. Je suis dans ma petite campagne, pas loin de Paris.
Oui, vous supportez cette épreuve ?
Oui, je crois que je suis parmi les chanceux, j'ai des copains qui sont dans des petits appartements et c'est un peu plus galère pour supporter le confinement. Donc ça va, je suis bien loti.
Vous êtes confiné seul ?
J'ai deux chats, mais seul. Mais je me demande si sur une longueur, sur une période aussi longue, j'aurais supporté un compagnon ou une famille. Je crois que quand même, je préfère être seul en confinement, je pense.
En même temps, c'est dur pour un humoriste seul, on ne fait rire personne, pas même ses chats.
Eh bien, c'est pour ça que c'était plus fort que moi. J'ai fait des petites vidéos Instagram, je suis devenu un petit YouTuber du dimanche. Et voilà, et je regarde le nombre de vues que je fais pour imaginer que je fais encore rire un peu des gens pendant ce confinement.
Et le nombre de vues est satisfaisant ?
Ça va. C'est moins d'effet que le nombre d'entrées dans un théâtre, mais comme on n'a plus le droit.
Eh oui, évidemment. Est-ce que vous faites vos courses ? Est-ce que vous portez un masque ?
Tout à fait. Je suis à la Carrefourière avec un masque noir.
C'est assez pratique, on ne vous reconnaît pas.
Eh bien, j'étais très fier que des gens me reconnaissent avec mon masque.
Quand même.
Ça veut dire que j'ai des yeux célèbres. Donc, j'étais très content.
Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
Faire des selfies dans la rue. Non. Qu'est-ce qui me manque le plus ? Très sincèrement, c'est la scène. Je pourrais vous dire les copains, les amours, les amis. Mais très sincèrement, c'est monter sur scène et entendre rire les gens. Ça, et puis en plus, comme je sais que c'est pas pour tout de suite, on parle de septembre ou octobre, ça craint.
Oui, évidemment. Les acteurs de théâtre vont être parmi les derniers, peut-être, à retrouver une activité normale.
Oui, on n'a pas le droit de se plaindre parce que y a des métiers qui sont plus lourdement touchés, tout ça. Il y a des gens qui vont certainement même mettre la clé sous la porte, paraît-il. Mais nous, on est un métier sinistré pour l'instant. Les métiers de la scène sont des métiers sinistrés, là, jusqu'en octobre.
Vous faites la cuisine ? Comment vous occupez-vous ?
Tout à fait. Je commence à savoir. En fait, je ne fais pas mieux la cuisine, mais je comprends mieux la durée de cuisson.
Ah oui.
Pour les pâtes, pour le riz, pour les œufs au plat, pour les chipolatas. Enfin, je maîtrise de mieux en mieux la durée de cuisson des aliments.
Il vous aura fallu 40 jours.
Il m'aura fallu 40 jours. Et je suis content de donner ces informations importantes aux gens.
Mais j'imagine que les restaurants doivent vous manquer.
Tout ce que le confinement empêche me manque. Mais c'est bizarre, hein, parce que on pourrait croire qu'on a du temps libre. Par exemple, moi, au début du confinement, je me dis, c'est génial, je vais écrire des pièces, je vais écrire des films. Être obligé d'avoir du temps libre, c'est pas comme avoir du temps libre. Il y a une obligation de rien faire. C'est pas comme avoir du temps libre. Et ce que je veux dire, c'est que j'écris pas aussi bien et autant que je voudrais.
Oui, on le subit au lieu d'en profiter, quoi.
Exactement. Voilà, vous avez dit en deux mots ce que j'ai dit en quatre phrases. Merci.
Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même depuis 40 jours solitaire avec vos chats ?
J'ai appris que je ne savais pas me couper les cheveux tout seul, donc il faudra vraiment attendre.
Pourtant, au début de votre carrière, on aurait cru que vous les coupiez tout seul.
Je ne répondrai pas à cette question, ce tacle. Non, effectivement, quand on est seul en plus, il y a des réflexions, des décisions, des résolutions qui vous arrivent. Voilà, je ne pourrais pas toutes vous les dire parce que certaines sont trop intimes, mais des choses dont on se dit, tiens, faudrait que je change ça dans ma vie. Comme j'ai la chance, je dis bien la chance, de ne pas avoir un conjoint ou des enfants à occuper, ben, je suis plutôt en introspection. Donc voilà, il y a des réflexions qui remontent.
Ce sont les mêmes attentions, les mêmes bonnes intentions qu'on a le soir du réveillon, à votre avis, ou celles-ci auront
plus... Elles sont plus profondes et à mon avis, elles vont durer. Celles du réveillon, elles durent jusqu'au 4 janvier, mais... celle-là, voilà, on se dit, tiens, peut-être que je fréquente moins ces gens-là, plus ces gens-là, que ma vie soit plus faite comme ça, ou en fait comme ça, voilà. Enfin, c'est un luxe, hein. Il y a des gens qui confinent dans beaucoup plus de souffrance que moi, hein. J'ai bien conscience.
Vous regardez la télévision plus que d'habitude, le journal de 20h?
Sans mentir, bien sûr que je suis sensible, comment dire, au nombre de morts, au nombre de... Mais je n'ai Dieu que pour le traitement et le futur traitement. Vous savez, je suis un hypochondriaque et je prie, j'attends le médicament miracle. Alors à un moment, je vénérais le docteur Raoult. Bon, il paraît que faut être prudent. Bon, donc moi j'attends la solution médicale, le traitement. Je sais que le vaccin sera dans longtemps, mais... Je regarde les infos pour savoir où on en est au niveau du traitement.
Mais vous ressortirez le 11 mai quand même, ou en bonne hypochondriaque, vous comptez rester là-bas, à la campagne?
Je vais inviter à la campagne des copains qui se seront fait dépister, dans un premier temps. Voilà.
Oui, en effet, ça vous promet un été qui risque d'être long. On ne va pas crouler sous les tests non plus.
Non, je sais, oh là 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 là, hein. On n'était pas prêt, hein. Le monde n'était pas prêt. J'espère que la prochaine pandémie, on va être un peu plus prêt. Hein.
Ben, je l'espère aussi. Merci Pierre Palmade de nous avoir donné vos nouvelles et bon confinement, en tout cas pour ce qu'il en reste.
Ça m'a permis de parler à un humain pendant ma journée, ça m'a fait vraiment plaisir.
Merci et saluez vos chats.
Oui, au revoir Frédéric.
Au revoir Pierre. Your space. Step two. Wash your hands. Step three. Don't touch your face. Step four. Then do that dance. Step one. Keep your space. Step two. Wash your hands. Step three. Don't touch your face. Step four. Then do that dance. Coronavirus. J'appelle maintenant Jean Viard, il est sociologue, il étudie les transformations de la société dans des livres plutôt optimistes comme Au bonheur des campagnes, La barbarie routière ou Le moment est venu de penser à l'avenir. Allô Jean Viard ?
Oui, bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, dans ce contexte, je vais plutôt bien, il fait beau, je suis à la campagne.
Vous vivez bien ce confinement ?
Non, honnêtement, c'est un peu pénible. Moi, je suis un homme de relation. Donc, je trouve qu'il y a deux choses insupportables. C'est de ne pas voir ses petits-enfants, surtout les tout-petits.
Et vous en avez beaucoup en plus, vous.
J'en ai une dizaine, oui. Mais c'est surtout les tout-petits. Les plus grands, on peut leur téléphoner, on peut les voir par Skype ou autre. Donc, au fond, on continue une relation. C'est compliqué avec ceux qui ne parlent pas, qui ont un an et demi, qui ne comprennent pas pourquoi d'un coup leur papy a disparu.
Alors, vous avez beaucoup écrit sur le temps libre. Hein. C'est vous qui avez calculé qu'on ne travaille plus en moyenne aujourd'hui que 10% de notre existence, alors que nos grands-parents, c'était presque la moitié. Hein. Au fond, nous sommes mieux préparés qu'eux à quelque chose comme le confinement.
Mais oui, quand on a donné les congés payés en 36, dans les milieux populaires, il y a parfois eu quasiment des mouvements de panique. Hein, parce que 15 jours sans travailler, ça n'existait pas. Mentalement, ça n'existait pas. Il n'y avait que la maladie ou le chômage. Hein, c'était les deux façons de penser une semaine sans activité. Donc il y a eu des vrais mouvements de panique. On a même organisé des grandes marches, par exemple à Strasbourg. L'Église et le syndicat se sont mutualisés, si on peut dire, pour monter à la Schlucht avec leur drapeau devant. Et les gens sont tous partis à pied dans une immense marche à travers la colline. La forêt, plutôt. Donc, si vous voulez, c'est pour dire qu'un temps qu'on ne connaît pas est très difficile à occuper mentalement. Et c'est ça, au fond, qui se passe. C'est vrai qu'on est habitué au temps libre, c'est vrai qu'on a la télévision, tout ça, on a des maisons beaucoup plus grandes, tout ça.
On est connecté aussi.
On est connecté, bien sûr, et tout. Mais ce qui manque, c'est la corporalité, c'est-à-dire c'est le corps de l'autre. Je dirais pas le corps du conjoint, mais le corps des autres, le genre corps des gens dans la rue, la boulangère, les collègues de bureau. Ce ne sont pas que des paroles. Quand on passe sur un écran, d'une certaine façon, on réduit la corporalité. Alors, ça va encore avec des gens qu'on connaît bien, mais il manque une épaisseur du réel, quoi. Et ça, je crois que c'est ça qui est le plus douloureux.
Qu'est-ce que vous avez observé depuis le début de ce confinement, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel? Aucun d'entre nous n'imaginait cela il y a encore 2 mois ou 3 mois. Il y a des choses qui vous paraissent tout à coup relevées déjà, qui sont des événements historiques?
D'abord, c'est un événement historique, je suis absolument convaincu. Je veux dire, je pense que le grand confinement va prendre place dans l'histoire des sociétés, un peu comme la Grande Dépression, si vous voulez. Donc je pense que le mot va s'imposer, il y aura un avant et un après, y compris parce que c'est un mouvement totalement contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes devenus des citoyens civiques, alors que nous étions surtout des consommateurs grognons, si on peut dire les choses comme ça. Donc au fond, on nous donne des consignes et finalement, on y obéit. Et ça, c'est vrai sur la planète entière. Et en même temps, jamais l'humanité n'a autant coopéré. On peut critiquer les Chinois qui truandent des chiffres et tout, mais les séquences qu'ils nous ont données du virus sont justes, etc. C'est, au fond, s'il y a aussi peu de morts, alors c'est terrible à dire parce qu'il va y en avoir des centaines de milliers, mais par rapport aux pandémies précédentes, c'est la coopération de l'humanité qui va permettre qu'il y en ait peut-être un des millions, 2 millions, alors que d'habitude, c'est en moyenne 50 millions le tarif des grandes pandémies. Donc c'est ça qui est paradoxal, quoi. C'est que ça, à la fois, ça vient à toute vitesse de l'autre bout du monde, mais ça avance, ça mettait 5 ans à venir de Chine, les pestes, mais ça revenait au même, sauf que ça mettait longtemps, ça venait en bateau, tout ça. Nous, ça vient quasiment dans le mois, grâce à l'aviation. Donc à la fois, on coopère et en même temps, on renforce les frontières. Donc je pense qu'il faut garder les deux mouvements à la tête pour ne pas désespérer du futur.
Comment avez-vous trouvé la gestion de la crise par le gouvernement qui se retrouve à devoir annoncer quand même des mesures incroyables, qu'on ne peut plus sortir de chez soi? Aucun homme politique n'avait imaginé qu'un jour il dirait cela à ses citoyens.
Non mais c'est une situation tellement inouïe et tellement imprévisible que si vous voulez, c'est difficile de porter un jugement. Ceux qui ne sont pas aux affaires disent « si c'était moi, ça aurait été mieux ouais, ». C'est facile, je veux dire. Donc, j'ai le sentiment, en gros, qu'ils se sont assez bien débrouillés, sauf que je n'ai pas compris pourquoi on ne nous a pas dit dès le début qu'il n'y avait pas de masque, ça serait très bien d'en porter, et que dès qu'il y en aura, on les porterait. Il y a eu un peu de mou dans la commande. Mais si vous voulez, ce qu'on a vu aussi, c'est que la société française est une société profondément bureaucratisée, et que nos hôpitaux sont lourds, écrasés de services de gestion. Alors que là, on voit bien que c'est les médecins qui ont pris le pouvoir, les infirmières, les gens qui travaillent dans le terrain, c'est pour ça que ça marche mieux. Et au fond, ce que je lis, moi, c'est surtout une société profondément bureaucratisée. Vous vous rendez compte qu'on discute depuis plusieurs jours pour savoir s'il faut offrir les commerces le même jour en Alsace et en Aquitaine. C'est quand même stupéfiant, parce que le principe de l'unité républicaine, c'est pas qu'on se jette tout salaud parce que le premier mouton de panure vient sauter par-dessus bord. C'est qu'effectivement, là où il n'y a pas de maladie ou très peu, il y a des règles, et puis là où il y en a plus d'autres, ça semble poser presque un problème philosophique. Je pense qu'on est un peu à la fin du jacobinisme. Moi, c'est ça que je lis. C'est au fond une certaine impuissance des jacobinistes qui s'est bureaucratisée.
Il va y avoir un formidable travail pour les sociologues ensuite. Ça va être de comparer les manières différentes qu'ont eues chaque pays de gérer cette crise du coronavirus, entre ceux qui ont confiné, ceux qui s'en sont remis aux tests et au traçage téléphonique, ceux qui n'ont pas confiné, comme la Suède, et qui ont l'air de très bien s'en tirer. Vous ne pensez pas que là, il va y avoir des mines d'or?
Non, mais il va y avoir des mines d'or. D'abord, à la fin, on fera les comptes. Autant qu'on aura les chiffres, ça va être compliqué. Mais on finira par les avoir, les chiffres, parce qu'on aura en tout cas les chiffres de nombre de morts chaque mois sur la planète. On les a toujours. On ne sait pas forcément la cause, mais on verra en fonction, j'allais dire, des bosses, des décès, s'il y a une augmentation très forte des décès dans tel ou tel pays. Donc, au fond, à la fin, on saura à peu près la vérité. Donc, ça, c'est important de le dire. Mais il faut attendre la fin, parce que vous voyez, la maladie a attaqué, par exemple, en France, je pense, si j'ai bien compris, par des personnes âgées, notamment dans l'Est, en Alsace, parce que c'était une réunion de gens plutôt âgés, alors que, par exemple, en Allemagne, ça a attaqué par les jeunes qui rentraient du ski. Donc, suivant le fil des générations, le chemin n'est pas le même. On verra à la fin, mais je suis d'accord, c'est passionnant à observer. Ça nous donne beaucoup de clés de lecture sur les sociétés. Ça peut aussi nous donner des clés pour dire, attendez, là, un tel est meilleur. Le but, c'est plutôt de se dire, analysons et proposons des solutions. Tout le monde voit bien qu'entre la France et l'Allemagne, on n'a pas la même vitesse. Si l'Allemagne, à la fin, en matière de santé à de bien meilleurs résultats, ben, je dirais que ça sera un peu une espèce de laboratoire de ce qu'on pourrait faire chez nous, et ça peut valoir dans d'autres situations aussi. Il ne faudrait pas que ça soit trop favorable au régime totalitaire, ça serait embêtant.
Ce qui serait embêtant aussi, c'est que ce soit trop favorable à la Suède, qui n'a pas confiné, qui n'a jamais paniqué, qui s'en est tenue à ce qu'elle avait dit dès le départ, qui n'a pas reculé comme la Grande-Bretagne ou la Hollande, et qui, a priori, en l'état actuel des choses, aurait moitié de moins de morts à proportion égale que la France. Imaginez que le pays qui n'a pas confiné s'en tire mieux que ceux qui ont confiné. On va tous regretter l'épreuve qu'on s'est infligée.
Oui, on va regretter l'épreuve, mais en même temps, ça serait tellement agréable qu'effectivement l'appel à la conscience individuelle soit supérieur aux effets de la police. Je veux dire, d'un point de vue éthique, ça serait quand même extrêmement satisfaisant. En France, on a dû mettre 100 000 policiers pour contrôler le confinement. Si on se rendait compte que la confiance dans les populations est finalement aussi efficace, voire plus efficace, quelque part, je dirais que d'un point de vue, j'allais dire éthique ou moral, ça serait plutôt quand même une bonne nouvelle.
Merci Jean Viard, et j'espère à bientôt.
Merci à vous, à bientôt Frédéric, au revoir.
Au revoir. Et tout de suite, une chanson qui a remonté le moral de nos grands-parents et qui pourrait bien nous remonter le nôtre.
Nous avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien les gens vous diront, ça ne tourne pas rond. Moi, pour un peu éclairer leur ciel lourd, je dis que Paris, c'est pas fait en un jour, et simplement, sans façon, je viens chanter cette chanson. On s'en tirera, comme toujours en France. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance.
Et là, on en sortira.
Tout remarchera à brève échéance. Il y aura du bonheur et le printemps reviendra.
Et là, on en sortira.
Les petits oiseaux n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Ils chantent tout de même, ils sont gais les moineaux. En attendant le soleil et l'été, il faut les imiter. On reverra les pommes frites et le bifteck, et c'est même sûr qu'il y aura du beurre avec. Sans compter que pour l'amour, on en a déjà tous les jours.
Et là, on en sortira.
On s'en tirera comme toujours en France, ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance.
Et là, on en sortira.
Tout remarchera à brève échéance. Il y aura du bonheur et le printemps reviendra.
Et là, on s'en sortira.
On s'en sortira, interprété par Georges Gosset. C'était en 1946, juste après la guerre, alors que le pays était encore rationné. C'est au tour de Claire Berest. Elle a publié des livres comme « L'orchestre vide »,« La lutte des classes »,« Pourquoi j'ai démissionné de l'éducation nationale » ou « Rien n'est noir ». Allô, Claire Berest ?
Oui, bonjour Frédéric.
Bonjour. Alors, « Rien n'est noir ».
Oui, alors rien n'est noir. Je pense que la France est partagée en multiples couleurs en ce moment. Les couleurs de l'enfermement, de l'ennui, mais aussi, je pense, quand même de la créativité. Mais définitivement, rien n'est noir, non ?
Où êtes-vous confiné et l'êtes-vous seul ?
Alors, je fais partie un petit peu de ces affreux Parisiens qui sont partis de Paris. Et je comprends tout à fait l'émoi que ça peut provoquer. Mais non, j'ai la chance d'être partie en Bretagne, car ma famille est bretonne. Et je suis confinée avec mon compagnon, ma fille, et un couple d'amis.
Ah, c'est un kibboutz.
Alors, c'est totalement un kibboutz, voire un phalanstère selon les jours. En tout cas, ça nous permet de faire cette expérience inédite de la communauté, voilà, avec des gens qui ne sont pas de notre famille. Et je dois dire que y aura un avant et un après.
Oui, ça se passe bien.
Oui, ça se passe très bien. Nous, ce qui est amusant, c'est de voir quand on est en communauté très rapprochée, enfermée, à quel point, en même temps, on garde des aspects profonds de la civilisation et le fait d'être à plusieurs l'oblige de se mettre à table, de discuter, de ne pas trop lâcher sur voilà, les aspects de la civilisation primaire. Et en même temps, on voit aussi comme il y a un relâchement avec les jours, avec, je ne sais pas, des fantaisies capillaires ou vestimentaires, ou le moment aussi où on commence à laisser la porte ouverte quand on va faire pipi. On se rend compte qu'effectivement, on est aussi loin de la civilisation et on commence à vivre les uns les autres comme des moules agrégées à un rocher, et un petit peu comme des entités qui se rapprochent.
Mais on vit ça parfois, alors souvent moins longtemps, mais quand on loue un appartement au sport d'hiver à plusieurs ou une maison l'été qu'on partage à plusieurs familles, très vite on commence à s'écharper sur la façon d'éduquer les enfants, des choses comme ça.
Oui, c'est-à-dire qu'on finit par... l'autre couple est une sorte de fenêtre ouverte sur son propre couple. On finit par faire des observations sociologiques, et toute l'idée étant effectivement de ne pas s'énerver pour des détails et des banalités. Mais les hommes sont en même temps ne peuvent pas vivre seuls, et en même temps ont des grandes difficultés finalement aussi à mêler leur propre individualisme à ceux des autres. C'est assez fascinant. Alors après, oui, on peut partir en vacances avec des amis, etc. Mais cette expérience du quotidien réel, ce ne sont pas des vacances. Tout le monde est quand même censé être un peu en train de travailler, à essayer de garder la tête un tout petit peu froide dans cette situation, tout en étant dans ce temps suspendu où voilà, chaque geste de notre quotidien est en fait partagé avec à cinq dans ce kibboutz.
Oui, en effet, je me demande si vous allez parvenir à sortir le 11 mai.
Eh ben, je ne sais pas, peut-être que nous allons finalement continuer l'expérience et de ne plus jamais revenir à la civilisation. C'est très difficile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mettre des dates en ce moment paraît quelque chose de très fantaisiste. C'est-à-dire que va-t-il se passer le 11 mai? Est-ce qu'on va sortir indemne de tout ça? Je ne sais pas.
Mais en même temps, il y en a qui comptent les jours, hein, vous savez.
Mais précisément d'ailleurs, quand je suis arrivée ici, j'ai mis un papier blanc sur le mur et je fais un peu comme les bagnards dans les bandes dessinées, des traits tous les jours. Et c'est assez intéressant de voir, là, voilà, et on en est à 30, 36 ou 37, je ne sais plus, et on perd ce compte. On voit à quel point il faut envisager le temps qui passe quand il est comme ça, plus rythmé par nos habitudes.
Eh oui, 41 jours aujourd'hui que nous sommes confinés. Qu'est-ce qui vous manque le plus, Claire Berest?
Qu'est-ce qui manque le plus? Les contacts physiques avec les gens.
Les gens voudront plus vous embrasser.
Mais je sais, c'est affreux. Non, mais c'est-à-dire que moi j'aime bien, je suis assez tactile et j'aime beaucoup, même quand je connais peu les gens, leur serrer la main, leur faire la bise, toucher leur bras, tout ça de manière très chaste, on s'entend, mais j'aime bien l'idée que les humains aient besoin de se toucher, de s'envisager comme ça, et l'idée qu'en sortant nous allons devoir garder des distances me semble être quelque chose d'extrêmement triste, et j'ai hâte que nous puissions à nouveau se taper dans le dos, se faire la bise, se faire une caresse sur les cheveux, et ce temps-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais oui, la proximité physique, je trouve que c'est quelque chose de beau.
Et vivement qu'on puisse enlever notre masque pour s'embrasser sur la bouche.
Ah oui, absolument. Alors voilà, là c'est l'étape d'après, évidemment. Nous puissions à nouveau nous faire des French kiss. Mais ça, effectivement, ça va devenir une sorte de denrée rare. Et nous nous en souviendrons avec beaucoup de langueur de ces baisers échangés.
Merci Claire Berest. Portez-vous bien et j'espère à bientôt.
Oui, mais absolument, portez-vous bien aussi. Merci beaucoup.
Allô, Benoît Dutertre.
Bonjour. Frédéric.
Bonjour, vous êtes l'auteur de deux livres au titre prémonitoire, hein, « Tout doit disparaître » et « Pourquoi je préfère rester chez moi ». Et vous venez de publier, juste avant le confinement, un pamphlet contre l'agitation parisienne intitulé « Les dents de la mer, souvenir d'un piéton de Paris ». Alors, heureux, Depuis que Paris est devenu un grand périmètre de sécurité...
Quand j'ai choisi pour ce précédent livre le titre « Pourquoi je préfère rester chez moi », je n'imaginais pas qu'il pourrait être tellement d'actualité quelques temps après. Et de fait, je suis pas mal chez moi, hein, je dois vous l'avouer. Heureux, non, parce que le contexte n'est pas très, très plaisant, tout ça... est lourd, anxiogène, incertain, mais néanmoins, je dois dire, il faut dire la vérité, que dans le coin de Paris où j'habite, à deux pas de Notre-Dame et de la Seine, c'est devenu une espèce de jardin enchanté depuis quelques semaines. Il n'y a plus une voiture, l'industrie touristique a complètement disparu. Espèce de Paris à la fois un peu endormi, mais très, très doux et très agréable que je vois de mes fenêtres, là, avec les marronniers roses, les oiseaux. Ce matin, j'étais réveillé par des goélands. Je me demandais si j'étais à Étretat ou à Paris, mais ils viennent beaucoup sur la Seine en ce moment. Enfin, c'est assez étonnant, hein, cette transformation.
Oui, normalement, en mai, il aurait dû y avoir Run My City, place de l'Hôtel de Ville, à un vol d'oiseaux de chez vous avec des tambours le dimanche matin. Ça va vous être épargné.
Voilà, parce qu'il faut quand même dire que l'écologie version Hôtel de Ville Anne Hidalgo, c'est quand même une espèce d'animation permanente, notamment sur le parvis de l'Hôtel de Ville qui est pas loin de chez moi, c'est de l'autre côté du pont, mais on entend bien ce qui s'y passe. Et effectivement, j'ai l'habitude d'être réveillé le dimanche matin au printemps par des tambours de toutes sortes pour des manifestations, des sorties sportives organisées pour les nouveaux citoyens, etc. Et c'est quand même très fatigant, surtout que ça se prolonge le soir après avec des fêtes techno sur les berges de la Seine ou des trucs comme ça. Enfin, ça s'arrête un peu jamais. Et là, ça s'est complètement, mais complètement, complètement arrêté. Alors bon, je dois dire, malgré tout, je suis un peu triste pour les commerçants du quartier parce que je les connais bien, mais en même temps, bon, c'est vrai que toutes ces boutiques de tourisme ayant été doublement détruites en un an par l'incendie de Notre-Dame, puis par la crise actuelle, avec entre-temps tous les mouvements sociaux qui ont beaucoup nui aussi au tourisme, le quartier est un petit peu évidemment blessé comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est le calme, c'est la paix, c'est les oiseaux, c'est le plaisir d'être sur son balcon. Bon, j'ai la chance d'en avoir un, j'habite dans des conditions agréables, hein, mais et puis de sortir, de voir la Seine, un vol de canards qui passe, etc. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire.
Oui, c'est pour ça que je vous disais heureux, les dents de la mer, votre dernier livre, c'est vraiment un pamphlet contre l'agitation parisienne, on dirait qu'elle est vaincue.
Oui, mais alors, bon, ce sont tous les paradoxes, parce que bon, je peux dénoncer une chose, je peux dénoncer surtout la façon dont la politique de la ville de Paris est mise en œuvre, qui à mon avis est catastrophique, parce qu'elle ne diminue pas réellement la circulation, parce qu'elle produit beaucoup d'agitation, bon, bref, parce qu'elle encourage le tourisme. Mais en même temps, soyons honnêtes, je vous dis, cette extinction totale, je peux pas dire qu'elle me réjouisse totalement, parce que c'est, j'imagine, quand vous savez, en juin 40, au moment où les Allemands sont arrivés, ça devait être un peu pareil. Hein. Paris était déserté, ça devait être d'un calme assez extraordinaire en ce début d'été. C'était pas pour autant très très réjouissant. Et donc voilà, il y a une espèce de nuance entre le plaisir tout d'un coup d'avoir l'impression d'être à la campagne à Paris, et puis malgré tout de savoir qu'une ville c'est pas vraiment ça, et que si c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quand même.
Néanmoins, j'imagine que vous voyez d'un bon œil le fait qu'on n'est pas prêt de rouvrir les fan zones, notamment sur le Champ de Mars, parce que les fan zones ce serait terrible, hein, pour se contaminer, il n'y aurait pas mieux. Les fêtes non plus.
Ah oui, je vois tout ça d'un très bon œil. Même, je vous dirais, moi qui étais, sans doute à contre-courant, mais contre la fermeture des voies sur berge, je dirais qu'on s'aperçoit très bien en ce moment où elles sont devenues inaccessibles pour éviter que les gens s'y massent. On voit très bien qu'elles ne servent pas à grand-chose, ces voies sur berge, parce que franchement, Paris vu des quais haut de la Seine, c'est-à-dire là où on peut se balader juste au-dessus, comme l'ont toujours fait les Parisiens, c'est très très beau aussi. Et franchement, voilà, quand les quais hauts retrouvent leur quiétude, on y est très bien également. Et puis voilà, y avait une chose qui était quand même, là je vais dans le sens je vais dire de la préfecture de police, mais bon, c'est comme ça, une chose qui était franchement, moi, qui m'angoissait assez les premiers jours quand je sortais faire mon petit tour, c'était tous ces centaines de joggeurs qui se croisaient partout, parce qu'ils vous frôlent, ils soufflent, ils poussent, ils crachent, etc. Et je trouve ça un peu flippant quand même. Et donc je suis heureux qu'ils aient leurs heures pour se croiser entre eux maintenant. Voilà.
Vous n'aimez pas beaucoup les circulations douces en général, Benoît Dieutertre, hein, ni les trottinettes, ni les vélos, ni les joggeurs.
Voilà, C'est ce que, tout ce qu'on appelle les circulations douces, puisque ma théorie, c'est que ce sont des circulations dures, les circulations douces, c'est-à-dire que quand la circulation douce est officialisée, elle révèle des comportements absolument aussi inciviques, grossiers, que ceux qu'on attribuait autrefois aux automobilistes. Et donc on a vu ces derniers temps comment effectivement le cycliste ou le trottinettiste pouvait devenir le goujat absolu, qui ne respecte aucune règle de circulation, qui vous insulte si vous lui faites une remarque, comme les automobilistes, pareil. Et c'est un peu ce qui les caractérise, tous ces gens doux qui incarnent le monde meilleur qui nous est promis. C'est pour ça que vous savez, je suis un piéton de Paris, hein, comme disait Léon-Paul Farc, j'ai toujours aimé me promener dans cette ville, y marcher. Et là, c'est vrai que comme je ne peux pas aller à plus d'un kilomètre, je réexplore les rues à un kilomètre de périmètre de chez moi. J'ai fait apparaître la carte sur Internet, c'est assez précis. Et donc, je les fais presque une par une, méthodiquement, et je redécouvre des petits trésors de boutiques, de façades, de tas de jolies choses très, très plaisantes quand on aime vraiment Paris, quoi.
Merci, Benoît Dutertre. Portez-vous bien, soyez prudent.
Merci, cher Frédéric. Écoutez, jusqu'à présent, ça a été. On va essayer de tenir bon encore quelques semaines.
Jusqu'au 11 mai.
Jusqu'au 11 mai, voilà.
C'est vrai qu'aujourd'hui, l'on redécouvre le silence et l'on comprend enfin ce que voulait dire Simon et Garfunkel quand ils chantaient une chanson complètement absconce dans laquelle personne n'osait déranger le son du silence.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, echoing the will of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
C'était The Sound of Silence. Paul Simon a écrit les paroles confiné dans sa salle de bain, toute lumière éteinte. Ceci explique cela.
Guerre coronavirus, microbe jangoro la dunit, aduna nek ci combat dougis, kumi xexal nirona grippe, nagn éviter contact physique. Xadul gaay of koloban pikin, tax bañu annuler programme yisiw, tax bañu fogné arunaay tukki. Médecin sonuna chili, amul vaccin ordonnance tamit, mu ngi ray day toroxal niti, buñu togué dina bëri ay victime.
Allô, François Berléand ?
Oui, bonjour, Frédéric Tadéhi.
Vous avez une voix gaie, ça se passe bien ?
Ah, ça se passe super bien, j'ai un labago qui me cloue au lit.
Oh.
Oui, donc c'est très très agréable. Voilà, c'est le principe de faire des courses de temps en temps. Et tout à coup, on ouvre un coffre, on prend une boîte d'œufs. Pourtant, c'est 12 œufs, c'est pas très lourd. Et ben, hop, labago. Mais terrible.
Ah oui.
Donc, c'est depuis vendredi dernier. J'ai fait une infiltration, là. Donc, je pense que ça va aller mieux, incessamment sous peu, mais ben, c'est pas encore significatif. Voilà.
Comme quoi, c'est dangereux de sortir. Hein. Vous auriez dû rester confiné totalement.
Ah non, mais je ne suis pas sorti. J'ai aidé simplement à prendre des boîtes d'œufs. Voilà, c'est tout dans le code de voiture. Voilà, c'est ça le principe.
Ah oui.
Le principe du confiné, c'est le crétin, n'est-ce pas, qui est confiné. Et dès qu'il est en dehors, il est confiné. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir un labago avec une douzaine d'œufs, ce qui n'est pas très lourd, mais suffisant malgré tout. Voilà.
Ça m'étonne que vous ne fassiez pas vos courses. Je vous sais gastronome.
Non, je fais des courses. Mais là,
oui, les petits commerces, en général, font votre bonheur.
Voilà, oui, mais là, le problème, c'est que je ne suis pas à Paris. Alors, je tiens à dire, je ne suis pas le salopard de Parisien qui est parti, soit pendant les vacances. Voilà, ça fait depuis un certain temps que je suis à Cahors, enfin du côté de Cahors, en pleine campagne. Donc je fais des courses, mais quand je fais des courses, c'est au supermarché. Et je les fais une fois par semaine parce que je respecte la distanciation sociale, comme on dit maintenant.
Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis le début de cette expérience ?
Mes amis, je ne peux pas prendre dans mes bras. Je me suis rendu compte de ça. C'est qu'en compte, on est quand même très tactile. Et j'ai vu, on m'a envoyé ça, mais c'est une petite vidéo où on voit des bébés. Mais je ne sais pas qu'ils doivent juste apprendre à marcher, quoi. Ils ont un an et demi. Et il y en a deux roses, deux blancs. Et, enfin, en maillot rose, un maillot blanc. Et ils n'arrêtent pas de s'embrasser. C'est formidable. Parce qu'on se dit, mais c'est ça, voilà, c'est ça. C'est pas nous, les adultes, qui avons inventé ça. C'est depuis toujours. Voilà, tout le monde s'embrasse, se touche. Moi, je suis très tactile. Donc, ce qui manque le plus, c'est vraiment les restaurants, les dîners, etc. Parce qu'après, je dois dire, ce que j'ai aimé dans le confinement, c'est le fait d'avoir un peu de solitude, ce qui m'arrive jamais, de me rapprocher du coup de ma cellule familiale et de lire. Parce que je lis énormément de scénarios, de pièces de théâtre, etc. Mais je me rends compte que je n'arrivais pas à lire plus de 4 livres par an, alors que là... Non pas que j'aime pas lire, hein, au contraire, justement, mais c'est le fait d'apprendre sans arrêt du texte, de théâtre notamment, je n'avais pas le temps de lire. Et là, j'en suis à mon sixième livre en un mois, donc je suis ravi parce que je rattrape beaucoup de temps perdu. Quoi.
Et vous ne craignez pas qu'à partir du 11 mai, quand on va déconfiner, que vous précipiterez pour embrasser vos amis, ils vous repoussent ?
Oui.
Pas sûr qu'on va s'embrasser aussi facilement hein, dans les semaines qui viennent.
Avec des gants, mais au moins on aura le contact d'un biceps, d'un sein, même d'un sein avec un soutien-gorge, mais au moins quelque chose de vivant, autre que celui de votre femme, bien sûr. Non, je plaisante. Non, puis il y a des trucs qu'on découvre. Je me découvre des talents cachés de cuisinier totalement ratés, par exemple. Vous voyez, je pensais que j'arrivais à faire de la cuisine. Mais faire la cuisine tous les jours, eh ben non, c'est finalement assez emmerdant quand c'est pas son métier, voilà, et quand on n'est pas habitué à le faire. Mais du coup, bon, les gens sont gentils, ils disent oh, c'est bon, parce que tout le monde met la main à la pâte évidemment, et donc chacun est très très gentil avec l'autre.
Les théâtres, malheureusement, ne vont pas rouvrir tout de suite. Pas sûr que les gens aient beaucoup envie d'aller dans les cinémas, qui d'ailleurs resteront probablement fermés pendant encore un certain temps. Vous risquez d'être un peu désœuvré, non ?
Oui, alors c'est bien le problème, c'est ça, effectivement. Je pense qu'on va pouvoir encore tourner. Je pense à deux films qui sont arrêtés, que j'étais en train de tourner. Donc normalement, cela devrait reprendre parce qu'il y a des... les assurances sont d'accord, donc on pourrait tourner au mois de juin, mais après, par rapport au déconfinement, je sais que ça va être très très sévère, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des prises de sang, il va falloir faire des... si ça se trouve, les équipes seront confinées dans des hôtels à Paris, n'auront pas le droit dans leur famille.
Jouer avec des masques ?
Oui, on jouera peut-être avec des masques, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, les techniciens sont masqués, ça c'est sûr. Mais nous, évidemment, pour jouer la comédie, ça va être un peu plus compliqué. Quant au théâtre, je ne suis pas sûr que ça reprenne vraiment tout de suite, même pas en septembre. Parce qu'il y en a qui disent ça. Normalement, nous, on aurait dû reprendre en septembre, mais avec François-Xavier de Maison, mais c'est vraiment pas sûr. Moi, je pense que dès qu'il y aura un vaccin qui va être trouvé, j'espère le plus tôt possible, on pourra reprendre une vie normale, mais avant, ça va être un peu compliqué, quoi. Enfin, je trouve que les gens sont devenus un peu plus agressifs encore qu'avant, il me semble.
Ah oui ?
Oui, je trouve.
Vous voyez ça à quoi ?
Bah, parce que le fait de, je sais pas, d'être confiné, de devoir, je sais pas, avoir une attestation pour sortir, avoir ci, avoir ça, ça, je trouve que c'est pénible, quoi. Bon, quand je suis dans un endroit assez grand, mais j'imagine dans les familles où il y a des studios, où ils sont à 4 dans les studios, dans les 2 pièces, quoi, 5, 6, je pense que c'est vraiment une catastrophe sans précédent, quoi, pour eux. Moi, je pense beaucoup aux gens qui n'ont pas la chance que j'ai d'être à la campagne.
C'est simple, il suffit d'imaginer 3 vedettes de cinéma partageant la même caravane pendant un tournage. On sait que ça se réglerait au couteau.
Oui, mais la caravane, on la partage dans la famille. Après, on rentre à l'hôtel ou je sais pas quoi. Mais non, c'est compliqué, hein, le confinement. Surtout qu'on entend tout le temps le tout et son contraire. On comprend rien à cette maladie. Il y a toujours des gens qui ont des assurances. Et puis, enfin, quand ils n'en ont aucune, le lendemain, c'est... Voilà, on vous dit qu'il faut porter un masque, mais comment on trouve des masques, puisqu'il n'y en a pas dans les pharmacies, nulle part. Donc là, c'est un peu compliqué. On vous dit après qu'il faut qu'il y ait 70% de la population qui soit confinée, mais comment on reste... qui attrape la maladie, pour être immunisé, pour l'avoir, mais comment on s'en parle, on ne peut pas l'avoir. Enfin bon, donc... alors moi, je rassure tout le monde, on est 11 dans cette maison, tout le monde était malade sauf moi. C'est particulier, hein, quand même.
C'est moi que... Vous étiez peut-être porteur sain ?
Alors, peut-être porteur sain, ou peut-être que, je ne sais pas, le fait de picoler quand même un peu, peut-être que c'est bon, peut-être que le vin est bon pour contrer le coronavirus. Je dis ça, je dis rien.
La cigarette, là, serait aussi...
Il paraît, hein, tout ce qui est mauvais pour la santé est mauvais pour le coronavirus.
J'espère que vous vous remettrez rapidement de votre limbago et que...
Mais c'est pour le coup, c'est pas gay, sauf que on reste allongé et du coup, on lit un peu plus encore, quoi.
Merci François Berléand et à bientôt alors.
Merci et à bientôt en déconfinement peut-être.
Exactement.
À bientôt. Frère.
J'appelle à présent Nathalie Reims, qui nous avait emmené en balade avec elle pour la sortie de son dernier livre, Les Reins et les Cœurs. Allô Nathalie Reims ?
Oui, allô.
Comment allez-vous ?
Ça va et vous, Frédéric ?
Pas mal. Comment vivez-vous ce confinement ?
Je vis ce confinement un peu, peut-être d'une façon un peu particulière, même. Je crois qu'elle est particulière pour chacun d'entre nous, mais en fait, j'ai été greffée du rein. Ça va faire 2 ans après-demain. Et la première année, quand on est greffé, on vous apprend qu'il faut mettre un masque et qu'il faut avoir exactement les mêmes mesures barrières qu'impose ce virus, parce que vous ne pouvez pas être vacciné tout simplement contre la grippe et que comme vous avez des médicaments pour vous aider à conserver votre organe qui sont des antirejets, ces médicaments vous mettent vos défenses immunitaires à plat. Donc voilà, donc c'est un confinement sans fin. Ce confinement s'était relâché un peu pour la deuxième année, hein, après la greffe. Et puis là, j'ai repris les habitudes qu'ont tous les greffés.
Vous étiez entraînée.
Voilà, j'étais très entraînée avec le fait de savoir aussi que comme les médecins très présent, très très présent, grâce à je ne sais quel dieu, à tous les dieux d'ailleurs, disent que qu'il faut faire particulièrement attention quand on a, mot horrible, des comorbidités, ce que je trouve un mot absolument affreux, mais c'est la vérité. Donc je fais attention, je fais encore plus attention peut-être, et étant entraînée, écoutez, je ne sais pas, pour les écrivains, je trouve que c'est... pas dire que c'est une nature, finalement, d'être habitué au confinement, et je le suis d'autant plus que je n'ai pas du tout de réseau social. Donc, si vous voulez, je ne peux pas dire que ce soit particulièrement difficile pour moi, qui suis très coupée de l'extérieur quand je travaille, ce qui est le cas. Et je prends juste des nouvelles tout le temps des gens que j'aime et qui me sont proches. Et j'écoute la télé le soir pour savoir ce qui se passe.
Et... Donc plus de téléphone et plus de télévision.
Plus de téléphone, sûrement. Plus de télévision, non, pas vraiment, parce que j'aime beaucoup la télévision. Je regarde principalement les chaînes info. Hein. Et après, d'autres émissions qui m'intéressent. Mais je veux dire, principalement, là, en ce moment, aussi les chaînes info, parce que les discours des uns et des autres, le comportement des uns et des autres, enfin, il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent et horribles en même temps. J'ai écrit l'année dernière, comme vous dites, un livre sur ce qui m'est arrivé avant et pendant et après la grève, qui s'appelle Les reins et les cœurs, et où j'avais déjà tellement eu de grâce et de reconnaissance vis-à-vis de des gens qui se sont occupés de moi et de tous ces médecins et de tout ce personnel soignant que j'ai eu la chance de croiser et à qui je dois vraiment tellement. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont éclairés d'une lumière différente et qu'il était temps. Alors en même temps, c'est assez paradoxal parce que c'est absolument horrible ce qui se passe. Et il aura fallu ça pour qu'on se rende compte que la santé, que les hôpitaux, que les médecins, que les soignants sont l'essentiel de la société, à mon sens, pour être passé par là et pour savoir ce que c'est que l'humanité quand il vous reste un souffle de vie.
Est-ce que vous faites tout de même vos courses? Vous sortez un peu?
Non, alors je n'ai pas le droit, jusqu'à maintenant, la néphrologue qui me suit à Necker et à qui je parle au téléphone maintenant, puisqu'on ne se déplace qu'en cas de gros problèmes, préfère que pour le moment, non, je ne sorte pas. Donc
confinement strict.
Voilà, le confinement strict, et j'ai quelqu'un qui est avec moi et qui a la grâce de faire ça pour nous, j'allais dire.
Qu'est-ce qui vous manque le plus, Nathalie Reims?
Ce qui me manque le plus, j'allais dire que c'est la liberté pour les autres, parce que je sens que les gens souffrent. Alors, je ne parle même pas de ce qu'on peut recevoir d'extrêmement difficile. Quand on voit la souffrance des gens et l'impossibilité de tenir la main de ses proches, bon, ça, c'est quelque chose qui me bouleverse au-delà de tout. Non, il ne me manque rien. Il me manque que les gens retrouvent la légèreté, le bonheur, une forme d'insouciance, que cette ombre... s'éloigne et que voilà et que les gens retrouvent surtout un peu de bonheur et d'insouciance. Moi, vous savez, il ne me manque rien parce que ma vie aurait dû s'arrêter il y a 2 ans, elle continue, donc je fais ce que j'aime, j'écris et je suis entourée par des gens que j'aime infiniment, il ne me manque rien, bien sûr que non.
Et c'est vrai que vous sortez très peu habituellement, oui. Comme vous le disiez.
Je ne suis pas une grande parisienne. Non, je suis quelqu'un d'assez sauvage, c'est vrai.
Mais alors, est-ce que ce coronavirus vous a appris des choses sur vous-même depuis que nous sommes plongés dans cette période tout de même inédite, hein, sans précédent
Je pensais vraiment être arrivée à une petite forme d'insouciance avec ces 2 ans de greffe et puis que mes rendez-vous, comme on les greffait au bout de 2 ans, qui sont trimestriels, que voilà, la peur s'éloigne. J'ai appris que la peur pouvait ressauter à la gorge comme ça à tout moment, mais j'ai vu aussi que j'étais assez résistante. Donc non, j'ai pas appris grand-chose sur moi-même, je ne crois pas.
Néanmoins, à peine vous sortez de cette greffe et il y a ça qui vous empêche, alors qui vous interdit de sortir carrément, oui. Ça n'est vraiment pas de chance.
Oui, c'est vrai. Non, si, j'ai beaucoup de chance, Frédéric, parce que j'ai été greffée il y a 2 ans grâce au rein de quelqu'un que j'aime tellement et qui m'a permis de poursuivre ma vie. Je pense aux gens qui sont greffés en ce moment ou qui ne peuvent pas l'être. La greffe est quelque chose de tellement difficile, de tellement complexe, avec des traitements tellement complexes que quand, et quelquefois ça se joue à tellement peu d'heures et tellement peu de jours, et de se dire qu'il y a des gens qui traversent ce Covid plus une maladie comme ça aussi importante. Non, je trouve que tant qu'on arrive à se protéger, et il faut se protéger. Non, je m'inquiète un peu du déconfinement, pour tout vous dire.
Ouais.
Mais c'est peut-être ma nature qui est comme ça. Je m'inquiète plus du déconfinement en espérant que les gens auront conscience de ce qui se passe et en fait qu'on n'attende pas des autres pour être pris en charge, je veux dire, uniquement sur le plan du comportement, bien sûr, mais que chacun soit responsable de son comportement. Ça, je pense que c'est important.
Merci Nathalie Reims. Gardez le moral et portez-vous bien et j'espère à bientôt.
Ben oui, moi aussi. À bientôt.
Et encore une chanson prémonitoire, c'est Homework de Johnny Hooker sur le télétravail. Je dois faire du travail à la maison, dit-il, je n'ai pas le droit de sortir, je connais la règle, j'ai été à l'école.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
Gotta do my homework, gotta stay home. Gotta do my homework, gotta stay home. I got to do, stop playing around. I've been playing a hooky, I've been playing around. Been sneaking around.
Homework interprété par Johnny Hooker.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Socializing is the route. It's what I'm about. My room is a mess. I'm so damn stressed. Talking purple punch, Clementine. Thinking about the crunch and better times. I'm furloughed from my work. I ain't gonna sugarcoat what I learned about this damn virus. It's real and it'll kill and steal from ya. You gotta be careful.
Allô, Elise Moon.
Oui, Frédéric Tadei, je vous entends. Du fond de mon confinement, me recevez-vous? Allô, confiné, confiné provincial, recevez-vous le confiné parisien? Allô.
Vous êtes en province?
Non, je ne suis pas en province, mon cher, je suis en banlieue.
Ah.
Mais vous êtes un banlieusard, vous aussi, non?
Oui, habituellement, mais là, je vous appelle d'Europe 1.
Ah, vous m'appelez d'Europe 1, très bien.
Eh oui, comment ça se passe?
Écoutez, ça se passe plutôt bien, si on considère que la solitude, c'est quelque chose de bien. Mais on va dire que je suis dans ma maison, j'ai un jardin, j'en ai fait le tour, je crois, environ plus de 564 fois. Donc, j'ai retiré toutes les mauvaises herbes. J'ai visité toutes mes ruches, parce que j'ai des ruches aussi. Donc, je connais toutes les abeilles par cœur, sachant qu'une ruche contient environ 60 000 abeilles.
Oui, vous êtes devenu très féru de jardinage. Hein.
Oui, bah oui, fortiori. Oui, oui, oui. Je l'étais déjà avant, mais là, maintenant, je ne vais pas vous dire que j'en suis parfaitement heureux, parce que mes activités artistiques se sont arrêtées nettes. La dernière fois que j'ai joué, c'était en Belgique et j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. J'avais des dates encore, plein de dates à faire et puis tout s'est arrêté, quoi. Bon, je suis pas le seul, hein. On est environ 3 milliards. Mais bon, on n'est pas 3 milliards d'artistes. Mais voilà, ce qui est difficile, pardon, je suis peut-être un peu bavard, hein.
Non, non, je vous en prie.
Mais ce qui est difficile, c'est de ne plus avoir le contact avec notre cher public. Ça, c'est difficile. Donc on se rattrape un peu, on fait des bêtises sur Instagram, des vidéos, des choses comme ça, pour garder un contact virtuel, évidemment, avec les gens, mais c'est la grande frustration, c'est ça.
Ouais. Et quand on vous appelle, vous parlez, parce que ça vous fait du bien.
Désolé. Ouais. Vous êtes le seul être humain à qui je parle depuis 2 mois.
Ça me fait plaisir. Non, j'ai vu que vous étiez remis à faire des sketchs avec Franck Dubosc sur Instagram, mais par caméra interposée.
Mais oui, on est obligé. Lui, il est dans le sud de la France, et moi, je suis là où je suis. Et donc, oui, alors on se téléphone tous les jours, on trouve des idées, on pleure de rire au téléphone, on se dit « Ah oui, on va faire ça ». Alors tu mets ta caméra comme ça, tu la mets horizontale, puis tu regardes à droite, hein, puis moi je regarderai à gauche. Et puis là, tu vas prendre une pomme et puis je vais te passer une orange, enfin bref.
Oui, ouais, non, mais c'est assez bien fait. Hein.
C'est bien fait, hein.
Oui, je vous ai vu jouer aux échecs, on avait vraiment l'impression que vous jouiez sur le même échiquier.
Il y a même quelqu'un qui a écrit « Bah dis donc, c'est le confinement, vous n'avez pas honte d'être ensemble ». Ils ont rien compris.
Qu'est-ce qui vous manque le plus?
Oh, ce qui me manque le plus, c'est d'être avec quelqu'un, de pouvoir serrer dans mes bras quelqu'un. Enfin, je veux dire...
Oui, on a compris.
Voilà, oui, oui, vous avez compris, je ne vois pas pourquoi. Je m'apprêtais à développer, mais vous m'avez sauvé la vie.
Non, je ne veux pas vous gêner. Vous avez fait un appel au don de matériel, oui, en faveur de l'EHPAD où se trouve votre père, qui
exactement
manquait de tout. Ça, ouais, a bien marché, non?
Ça a super bien marché. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça va profiter aux EHPAD aux alentours.
Ah oui, parce qu'ils ont reçu tellement de masques, tellement de gel hydroalcoolique et de surblouses que...
Je ne sais pas dans quelle mesure ils en ont reçu beaucoup, beaucoup, mais ils en avaient besoin, ça c'est clair. Mais comment dirais-je? En fait, il y avait une grosse inquiétude parce que mon père est là-bas et on nous disait que les infirmières, les gens qui s'occupaient d'eux, avaient du mal à se protéger, enfin à protéger les anciens. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Faire un don, je l'ai fait, mais fabriquer des masques et des surblouses, moi je n'ai pas de machine à coudre, hein, chez moi. Donc oui, en effet, j'ai fait appel à la générosité des gens, à leur solidarité, et ça a fonctionné. D'abord, pas parce que c'est moi, mais parce que c'est le cas de tous les EHPAD de France, quasiment. Donc ça fait écho.
Oui, et puis ça fait peur de se dire que même le personnel soignant des EHPAD n'est pas protégé.
Mais c'est un truc de fou, on n'est pas... dans un pays sous-développé, quand même. Non, mais ça me semble complètement fou, mais heureusement, il y a une grande solidarité, donc ça a été génial. Ça a été entendu.
Qu'est-ce que vous allez faire le 11 mai?
Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous aussi? Vous allez dans la rue, vous allez prendre les gens dans vos bras, vous allez sauter. Non, je ne sais pas, il ne va pas se passer plus de choses que le 10 mai, je pense, malheureusement. Enfin, peut-être que, évidemment, je vais bouger, je vais prendre ma voiture et je vais aller à Lyon voir mon père, ce que je peux faire là maintenant, d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce que je vais faire de plus que... Parce qu'il y a deux problèmes. Enfin, c'est le confinement, mais le déconfinement aussi, c'est un problème. Parce que, est-ce qu'on ne va pas avoir peur tous de sortir de chez nous Enfin, je ne sais pas. C'est un inconnu.
Vous n'y pensez pas trop?
Non. Vous savez, depuis le confinement, on est tous un peu pareil. On vit un peu au jour le jour. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu tous du mal à écrire des choses pour le long terme. On peut écrire des choses... Pour des réseaux sociaux, parce que ça va vite et que c'est consommé vite et que c'est virtuel, mais pour le reste, c'est compliqué.
Vous pensez qu'il va y avoir un humour post-confinement ?
J'y pensais, justement, mais est-ce que les gens ne vont pas trouver ça anxiogène ? Mais on va être obligé d'en parler, c'est sûr. C'est sûr, parce que...
On s'est mis à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru qu'on allait faire.
Le ménage, la vaisselle, passer l'aspirateur... oui, bien sûr, tous. On est tous comme ça. Ranger des papiers. Oui, c'est clair, mais j'ai un doute. J'ai l'impression qu'on va reprendre notre vie, que la nature aura eu la chance de faire une pause de 2 mois, de 3 mois peut-être, mais que les choses vont reprendre comme avant, non ? Vous ne trouvez pas ?
Écoutez, nous verrons.
C'est utopique de penser que l'humanité va changer comme ça, jour au lendemain.
Oui.
On verra bien.
Merci, Elise Moon.
De rien, c'est sur cette phrase semi-philosophique qu'on va se quitter là. On verra bien. Merci à vous, Frédéric.
Et à bientôt.
À bientôt. Salut.
Et maintenant, Misia, elle est portugaise, elle est chanteuse, c'est l'anarchiste du Fado. Elle était en concert à La Cigale en janvier. Allô, Misia ?
Oui ?
Est-ce que vous êtes de retour à Lisbonne ?
Oui, je suis à Lisbonne, chez moi.
Où le confinement a démarré le 18 mars et doit normalement durer jusqu'au 2 mai, hein, je crois.
Oui, mais moi, le 9 mars, on était déjà confinés ici. Beaucoup
ah bon.
De personnes, oui. Mon premier jour, c'était le 9 mars de confinement.
Et alors, comment supportez-vous ?
Pas mal. Moi, j'aime beaucoup être à la maison, d'abord. Je suis quelqu'un qui aime sortir la nuit, par exemple, à dîner, comme ça. Mais pendant la journée, j'adore être à la maison avec mes plantes, mes animaux, avec un rythme... beaucoup plus lent, disons. Je me promène entre les choses, je divague. Je suis assez rêveuse, on pourrait dire. Et donc, être à la maison, à moi, ça m'angoisse pas trop.
Et les animaux, comment supportent-ils le confinement ?
Oh, les animaux sont enchantés. Ils sont collés à moi toute la journée. Oh là, non. Les animaux sont très bien. C'est une petite chihuahua et 2 chats, en blanc et en noir. Donc, ils sont enchantés parce qu'ils traumatisent quand je vais en tournée un peu. Ils sont un peu mal, donc voilà.
Mais vous sortez quand même, vous allez faire vos courses
Non, je ne sors pas, rien du tout.
Rien ?
Non, parce que à cause de mes 3 problèmes oncologiques que j'ai eus ces dernières années, je suis considérée de risque.
D'accord.
Donc, par exemple, la dernière chimio et radiothérapie que j'ai fait, c'était très peu avant le concert de La Cigale que j'ai fait à Paris, le 20 janvier.
Le 20 janvier, en effet.
J'avais fini la radiothérapie le 24 décembre et la chimio était assez faible quand j'ai fait ce concert. Et donc, à cause de l'immunité, c'est mieux, disons que je suis de risque, donc je préfère, vous savez, comme j'aime être à la maison, j'ai toute une équipe d'amis qui se sont organisés, c'est un défilé de plats de cuisine dans mes escaliers.
On vous ravitaille.
On m'amène, j'ai des amis français qui vivent ici, qui étaient les anciens propriétaires du restaurant Le Bulldog à la rue Rambuteau. Et ils ont un appartement à Lisbonne et ils vont acheter ici dans une boucherie qui s'appelle la Boucherie Française. Et ils viennent, ils m'amènent de la viande, du jambon de Paris, toutes les choses de la France, le fromage, tout. Et d'autres amis m'amènent, il y a une amie à moi, un architecte très connu, c'est elle qui a fait la remodélation de Centre Gulbenkian. C'est une personne assez importante et je la vois descendre la rue avec sa soupe de poulet pour moi. Ah oui, oui. Et une autre amie à moi qui est médecin, elle va faire les courses au supermarché pour lui, il achète pour moi aussi. Donc, logistiquement, c'est tout très bien préparé. J'ai une dame, Lourdes, Dona Lourdes, brésilienne, qui vient deux fois par semaine. Et voilà, c'est comme ça.
Donc, vous êtes dans le thé, rien ne vous manque au fond?
Non, là, après ce temps-là, oui, j'aimerais sortir. J'aimerais sortir un peu. Mais d'un autre côté, par exemple, aujourd'hui, prenons le jour d'aujourd'hui, il fait beau. On peut écouter les oiseaux, une chose qu'avant on n'écoutait pas presque. Les oiseaux, les merles, même des perroquets brésiliens. Je dis que peut-être ils chantent une chanson de Bethania, de Maria Bethania, de Vinicius. Les pigeons, j'ai écrit deux textes sur un pigeon qui s'appelle Manuel, parce qu'il est très portugais, parce qu'il se promène, il ne vole pas, il marche. Au milieu de la rue, parce qu'il n'a pas de voiture ni rien, non? Donc, la rue est à lui, il marche, il ne lui manque que le journal en bas de l'aile, parce qu'il est vraiment à sa volonté, tous les animaux, les mouettes, les chats de la rue. Et moi, comme j'aime beaucoup ça, par exemple, le trottoir de la rue à côté est presque tout vert, comme un tapis vert. Les herbes sont sorties, comme personne n'y passe, et ça, c'est couvert de vert, c'est comme un tapis vert. Voilà, c'est très beau voir cette transformation. Mais oui, il me manque mes concerts, que je les ai tous perdus.
Votre Premier ministre parle d'interdire les plages cet été, ça paraît terrible.
Ah oui, ça va être terrible, là oui. Ce qui se passe avec ce virus, c'est qu'il y a des vagues, les pays sont pas tous en même temps dans le même stade, et c'est ça le problème. Donc, moi par exemple, maintenant, là, le 1er mai, ça finit le confinement ici. Et donc, mais par exemple, les Portugais ont retiré les enfants de l'école même avant que les écoles soient fermées. Par exemple, on a été très obéissants. Là, nous, parce que nous ne sommes pas des Latins. Nous n'avons pas de sang latin.
C'est pour ça que vous avez moins de morts que les Espagnols, à votre avis?
Non, c'est pour ça qu'on sort moins, on n'obéisse plus. Vous savez, on est obéissants. On a une certaine docilité. Il y a des personnes qui disent que c'est à cause de la dictature, mais ce n'est pas possible parce que l'Espagne, ils ont une dictature assez différente de la nôtre, bien sûr. Mais bon, mais je pense que c'est une question de tempérament. Voilà. Les Espagnols et les Italiens sont plus bruyants, sont plus de vivre dans la rue, tout ça. Et ici, les personnes sont plus calmes. La chose, c'est que nous sommes plus calmes. Donc, il y a eu très peu de. Il y en a encore très peu de cas. On n'a pas eu un pic. On a eu un plein alt. Mais jamais on a eu le pic. Et ça, pour le moment, c'est très, très bien.
Et donc, vous pensez que l'interdiction des plages, si elle a lieu, sera respectée?
Bon, ici, au Portugal, je ne sais pas ailleurs. Parce que, par exemple, j'ai vu les images de Florida, aux États-Unis, et les gens ne respectaient pas les distances. Mais ici, s'ils vont à la plage, je suis sûre qu'ils vont respecter les distances.
Merci, Misia.
À très vite, Frédéric. Merci.
Et pour tous ceux dont les fenêtres donnent sur la mer et n'ont pas le droit ni de se baigner, ni de partir en bateau, je vous propose d'écouter Nicoletta dans une chanson prémonitoire, « Toi qui regardes la mer ».
Europe 1, Frédéric Taddeï.
Toi qui regardes la mer, tu es seule avec tes souvenirs, et malgré tout ce bleu, tout ce vert,
Nicoletta, toi qui regardes la mer, la chanson du film Papillon avec Steve McQueen. Allô, Édouard Louis ?
Allô, bonjour.
Bonjour, vous avez 27 ans, vous êtes devenu célèbre avec votre premier roman, En finir avec Eddie Bellegueule. Depuis, vous en avez publié deux autres, Histoire de la violence et Qui a tué mon père. Est-ce que vous prenez cette épreuve avec philosophie ?
Avec philosophie, je ne sais pas, en tout cas, j'essaye. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi. Pas tellement ce qui se passe en moi, parce que la manière dont moi je vis le confinement, je pense, fait sans doute partie des expériences les moins intéressantes à raconter, puisque je suis écrivain, j'écris, je lis chez moi, et j'aurais presque honte de raconter ça. Mais ce qui me frappe, c'est voilà, ce qui se passe autour, qu'est-ce qu'il en est de l'organisation de la société en ce moment, qu'est-ce qui fait que, par exemple, Le prix du confinement pour des gens comme moi, c'est que des gens ne soient pas confinés, qu'il y ait des gens qui travaillent dans les usines, qui travaillent dans les supermarchés, qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Et donc, le prendre avec philosophie, en tout cas, c'est dans ce sens-là que j'aborde. J'essaie de comprendre comment toutes ces choses-là s'articulent. Et bon, c'est pas évident, mais j'essaie de le faire.
Vous vous sentez redevable comme quelqu'un qui serait tout au bout de la chaîne ?
Non, c'est-à-dire que non, je me sens pas redevable parce que c'est pas nous qui sommes responsables de la situation et de ce qui se passe et de ces écarts entre des vies confinées et des vies déconfinées. Mais en tout cas, je m'interroge et je ressens une forme de colère aussi parce qu'on apprend des choses tous les jours sur cette épidémie, sur cette maladie. Et de plus en plus, je me demande si ce confinement, il est au fond pas un confinement social, plus qu'un confinement sanitaire. Et je m'interroge sur les mots que le pouvoir utilise, que l'État utilise, que le gouvernement de Macron utilise, quand ils disent, voilà, ce confinement, c'est un confinement sanitaire, c'est un confinement de santé, c'est un confinement pour protéger la santé des gens. Et en fait, on se rend compte que les gens qui sont le plus exposés à ce virus, c'est des gens qui ont des problèmes de cœur, c'est des gens qui ont des problèmes de santé, c'est des gens qui ont des problèmes d'obésité, c'est des gens qui ont tous ces problèmes qui, en général, visent les corps et les vies des gens qui ont les vies les moins privilégiées. Et au fond, les gens qui sont le plus sensibles à ce virus, on dirait, alors tout ce que je vous dis là, ce sont des hypothèses, parce que je ne suis pas médecin, j'y connais rien, j'essaie d'y réfléchir, mais au fond, les gens qui sont le plus exposés à ce virus sont les gens qui, eux, ne sont pas confinés, qui travaillent dans les usines, qui travaillent dans les supermarchés. Alors si on met à part les personnes âgées, bien sûr, qui là, il y a un problème transclasse, mais même à l'intérieur de ça, d'ailleurs, il existe des différences. Mais c'est vrai que moi, j'ai dans ma famille des gens qui souffrent d'obésité, qui souffrent de problèmes de corps, qui souffrent de problèmes de cœur parce qu'ils ont travaillé à l'usine, parce qu'ils ont travaillé, ils ont eu des conditions de vie difficiles et que ces conditions de vie leur ont abîmé le corps. Et ces gens, aujourd'hui, continuent à aller au supermarché, continuent à aller à l'usine, continuent à travailler, continuent à livrer. Une partie de ma famille, des gens de ma famille travaillent chez Amazon, dans les hangars Amazon, Et au fond, je me demande, voilà, est-ce qu'on n'a pas tendance en ce moment, même à l'intérieur d'une partie de la gauche, même à l'intérieur d'une partie de la communauté critique à l'égard du pouvoir, les progressistes, les gens de gauche, les gens qui réfléchissent, est-ce qu'au fond, on n'est pas en train d'accepter les maux du pouvoir sans les interroger au moment où on dit ce confinement, il est sanitaire, est-ce qu'il est vraiment sanitaire? Est-ce que ce n'est pas plutôt un confinement social qu'un confinement sanitaire? Et en tout cas, c'est ce qui me semble se dégager de ça. Et quel est le prix de ce confinement? Si vous voulez, ce confinement aussi, il révèle le fonctionnement un peu normal du monde, c'est-à-dire la manière dont il fonctionnait déjà avant, mais c'est comme si dans un moment de crise comme ça, les vérités apparaissaient de manière encore plus claire. Et au fond, on se dit, le confort des uns a toujours comme coût le travail des autres, la souffrance des autres, tout ce qu'on appelle dans nos vies de tous les jours, le confort, le luxe, le privilège, le plaisir a toujours une contrepartie qui est que des gens, quand on est à l'hôtel, nettoient les toilettes et la salle de bain de l'hôtel, les gens qui, quand on consomme dans un restaurant, font le ménage, font la plonge. Bon, à chaque expérience est associé un coût qui est souvent invisible. Et là, au fond, ce confinement vient révéler ça de manière encore plus violente. Et ce confinement, c'est presque une sorte de moment de vérité sur la manière dont fonctionne le monde avec ses hiérarchies, ses violences et ses inégalités. Au fond, tout le monde a dit à un moment donné, est-ce que ce confinement va tout changer? Est-ce que ce confinement va changer la manière de penser, la manière d'être, la manière dont la société fonctionne, la manière dont fonctionne le capitalisme, la manière dont on gère l'environnement? Et puis au fond, on se rend compte que ce qui se passe, c'est que simplement le monde est révélé dans toute sa vérité et dans toute sa violence. Et c'est un peu ce sentiment-là que j'ai, c'est une sorte de miroir grossissant, si vous voulez, cette prise de la manière dont le monde fonctionnait déjà avant.
Il y a aussi tous ceux qui, au fond, rêveraient d'être déconfinés, rêveraient de pouvoir aller travailler, mais surtout de pouvoir sortir, d'être libre de leur mouvement. Il y a tous ceux qui voudraient demander l'asile politique en Suède, par exemple, où on n'a jamais confiné la population et où pourtant il y a, proportionnellement à la population, moitié de moins de morts qu'en France. Vous y pensez à eux? Est-ce que le 11 mai, est-ce que vous allez rester chez vous ou au contraire sortir?
Ah non, mais
enfin sortir.
Évidemment, je fais partie de cette communauté de gens qui rêvent de fuite et d'exil. La nuit, je rêve que je traverse la frontière la nuit par des sous-bois et par des forêts en cachette, comme ça, en fuyant la France. J'en rêve toutes les nuits. Évidemment, je rêve de la fin de cette situation et de la fin de cette de ce confinement. Je pense que c'est aussi évidemment quelque chose qui peut être particulièrement dur pour la communauté gay. Moi, je suis gay, j'ai organisé, comme ça a souvent été le cas dans l'histoire de l'homosexualité, j'ai organisé toute ma vie autour de l'amitié. Vous savez, il y avait Michel Foucault qui parlait de l'amitié comme mode de vie, et comme pour beaucoup de gays, moi, l'amitié, elle est au cœur de ma vie. Je vis avec mes amis, je vois mes amis. Et là, tout à coup, ces choses-là sont bannies, sont interdites. C'est ce que Geoffroy de la Gaterie avait dit à propos de ce confinement, c'est-à-dire que ce confinement organise une forme de familialisme dans laquelle on peut voir ses enfants, être avec ses enfants. S'il y a une garde partagée, on peut même traverser toute la France, voyager à travers la France pour aller récupérer son enfant et le ramener chez soi. Mais au fond, on ne peut pas voir des amis, on ne peut pas voir des gens qu'on aime, on ne peut pas voir des amants, et il y a une redistribution violente de ce qui est considéré comme une unité domestique légitime, et les unités domestiques et les vies légitimes. Donc moi, à un niveau personnel, c'est évident que je rêve de la fin de cette situation, que je vois aussi que, évidemment, enfin, encore une fois, j'y connais pas grand-chose, alors tout ce que je vous dis là, je le dis un peu de manière comme ça, hypothétique, mais c'est sûr qu'on se rend compte que ce confinement est pas du tout une évidence, et qu'au fond, on n'est pas confiné à cause du virus, on est confiné parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans l'hôpital, on est confiné parce qu'on a un service de santé qui a été détruit par les décennies de néolibéralisme, de violent, de lutte, de guerre contre la fonction publique, de guerre contre l'hôpital, de guerre contre les médecins, médecins contre les infirmières. L'année dernière, j'ai manifesté avec les infirmières et les médecins, les infirmiers dans la rue. On a été gazés par la police. On était bon. Et donc, on se rend bien compte que le confinement, il n'est pas dû au virus. Il est dû à un système de santé détruit. Il est dû à des. Et donc, oui, je rêve d'une situation comme celle de la Suède. Et je pense qu'il ne faut pas du tout. Il ne faut pas du tout penser le confinement comme une forme d'idéal politique. Je pense qu'aujourd'hui, une manière saine de penser, c'est comment sortir de cette situation le plus rapidement possible et le plus vite possible, sans même parler des coûts pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de ce confinement. Parce que tout à l'heure, on se disait, bon, il y a tout un ensemble de gens des classes populaires, de gens défavorisés qui, eux, ne sont pas confinés, qui travaillent et qui ont des santé plus fragiles et qui sont plus exposés. Mais il y a aussi des gens qui sont confinés et qui, tout à coup, se retrouvent dans la misère absolue. On a vu des images d'étudiants qui ne peuvent plus manger, des gens qui sont chauffeurs Uber, qui ne peuvent plus travailler, qui n'ont pas de contrat de travail, qui se retrouvent dans la précarité absolue. Alors on se dit, bon, quels sont les coûts de ce confinement? Et c'est sûr qu'on a envie qu'il s'arrête le plus rapidement possible, le plus vite possible, c'est tout ce que je souhaite. Donc le 11, oui, moi je vais sortir et courir dans tous les sens.
Merci Édouard-Louis, portez-vous bien.
Merci.
Et à bientôt, j'espère.
Vous aussi, ben, prenez soin de vous, comme dirait la grande Sophie Kahl.
À bientôt.
Au revoir.
Et voilà, cette émission se termine. Je vous souhaite un très bon dimanche. Restez confinés. On se retrouve la semaine prochaine à 11h pour une autre balade avec le téléphone.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.